And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Original de Junier Jean-Pierre, L'œuvre. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement, CVRP.
Dehors il neige, gros flocons cotonneux. Charles, assis dans un fauteuil, la regarde tomber une couverture écossaise sur ses genoux. Seule, la fenêtre de la chambre est claire, le reste est sombre. Meubles basques en aulne, lit avec dessus un couvre-lit en laine rouge, table de nuit, armoire, penderie, petite table et chaise. Tout est propre, net. Une femme de ménage vient tous les jours. Charles a 70 ans. Il est grand, osseux, les cheveux blancs, lèvres et nez pincés. Sur son pyjama marron, il porte une robe de chambre bordeaux. L'on frappe à la porte.
Entrez.
Un jeune homme entre. Il semble avoir dans les 25 ans, grand, mince, un visage angélique, porte sur son costume gris une blouse blanche.
Mais qui êtes-vous, monsieur ?
Je suis votre nouvel infirmier.
Je ne suis pas au courant. Et comment avez-vous pu rentrer ?
On m'a donné vos clés. L'infirmier s'avance vers Charles. Ne vous faites pas de soucis. Votre infirmier Marc est malade. C'est moi qui le remplace. Je m'appelle Stéphane Messager. Nous allons très bien nous entendre. Je sais exactement ce que je dois vous faire. Veillez sur votre tension, une piqûre le matin et une le soir, vous donnez les médicaments de la journée et vous aidez pour vos faits et gestes. Où se trouvent les médicaments?
Dans la salle de bain, la porte qui est à côté de l'armoire.
Bien, nous allons voir cela et commencer les soins. Une demi-heure plus tard, Stéphane est sur une chaise à côté de Charles. Charles regarde la neige tomber. Vous ennuyez pas trop?
Non.
L'écriture ne vous manque pas?
Pas vraiment, je suis tellement fatigué.
Un homme comme vous doit avoir du regret de ne plus pouvoir écrire. Je suis sûr que vous souffrez beaucoup de ne pas pouvoir faire votre dernière œuvre.
Qui vous dit que je ne l'ai pas écrite, cette dernière œuvre?
Écrire et publier?
Toutes mes œuvres ont été publiées. Mais vous avez raison. Voyez-vous, je suis seul, sans enfant. Ce qui reste de moi, ce sont mes œuvres, qui sont mes enfants, pour ainsi dire. Mais quelque chose m'attriste et m'inquiète. J'ai peur d'avoir écrit trop vite et pas assez bien, de ne pas avoir écrit mon œuvre forte, majeure. J'ai toujours cru que j'avais le temps de l'écrire et puis je me sentais pas assez fort pour le faire.
Quel devait être ce sujet?
Mon œuvre majeure, c'est celle qui amènera l'homme vers l'immortalité, qu'il fera devenir Dieu lui-même.
Et comment cela?
Je ne vais pas vous dire tout ça, je ne vais tout même pas tout vous narrer.
Alors écrivez-le.
Non, je suis fatigué et malade. Et puis le médecin a dû vous dire qu'il ne me faut pas que je me fatigue trop.
Non, bon. Votre tension est normale. Cela vous rendra encore plus malade si vous n'écrivez pas votre œuvre majeure.
Non, je ne peux pas.
Ne faites pas l'enfant. Je dis que vous pouvez. Essayez. Je vais vous rapprocher de votre table et vous essayerez.
Non.
Vous voulez tout de même pas que les gens vous jugent sur ce que vous avez laissé.
Vous avez vu mes œuvres?
Oui.
Est-ce vraiment si mauvais que ça?
Ce n'est pas vraiment cela, mais ce n'est pas ce que l'on attendait de vous. Et puis, c'est une œuvre que les gens vont vite oublier.
Oh, vous en êtes sûr?
Oui. Charles soupire.
Je m'en doutais. Je voulais laisser une œuvre importante en volume et croyais avoir le temps de faire quelque chose de sérieux. Maintenant, c'est trop tard.
Non. Tant qu'il y a de la vie, on peut essayer. Charles hausse les épaules.
Essayez d'écrire
votre œuvre.
J'en mourrai.
Oui, mais vous le ferez sur le plus beau champ de bataille du monde.
Puisque vous le dites.
C'est vrai?
Oui.
Et si vous réussissez, vous aurez gagné la plus grande bataille du monde. Allez, sans tirer un seul coup de fusil. Stéphane court. prendre la table et la porter à côté de Charles. Ça va comme cela?
Oui.
Vous avez du papier?
Oui, dans le tiroir.
Charles, de ses mains tremblantes, sort un bloc de papier du tiroir et le dépose sur la table. Puis, prend un stylo à plume d'un autre tiroir. Il regarde bien la feuille blanche, la touche avec sa main à plat et regarde la neige tomber. Stéphane garde sa voiture devant la maison. Elle est à un étage et sans style. Il sort de voiture. Pendant le porte-bagages, un sac de voyage et une baguette de pain. Et entre dans la maison. Il va dans la cuisine pour peser les provisions. Et monte à la chambre. Frappe à la porte et entre. Charles est couché dans son lit. Bonjour monsieur.
Bonjour Stéphane, vous êtes bien matinal.
Stéphane prend sa blouse qui est sur le dossier de la chaise et la met. Puis, il va vers le lit. C'est moi qui désormais ferai votre ménage.
Oh.
Oui, votre femme de ménage ne peut plus venir. Je vais vous lever maintenant, faire votre lit. Après, nous prendrons le petit déjeuner. Stéphane aide Charles à se lever. Et le mène à son fauteuil. Puis fait le lit.
Elle ne peut plus venir.
Elle a trop de travail. Et puis, cela risquerait de vous déranger dans votre œuvre. Avez-vous écrit hier au soir?
Oui, un peu. Mais ce n'est pas cela. Je tourne autour du sujet et n'arrive pas à l'aborder de front.
Vous me montrerez ce que vous avez écrit. Après avoir fait le lit, il descend préparer le petit déjeuner. qu'il ait pris son petit déjeuner, montrez-moi ce que vous avez écrit. Charles prend de son tiroir 3 feuilles. Stéphane les prend. Que cela ? Il faut aller plus vite. Je vous avais dit d'écrire au moins 10 pages par jour. Le temps presse. Je vous donnerai des fortifiants.
Le médecin m'avait dit.
Je l'ai vu, ne vous inquiétez pas. Bon, voyons un peu ce que vous avez écrit. Stéphane soupire et lit. Il ne faut pas tout accepter de la vie sous prétexte qu'il faut vivre. Vivre, ce n'est pas courber la tête. Pour vivre comme un homme, il faut rester droit et intransigeant sur les choses qui vous paraissent essentielles. Ce n'est pas parce que les autres acceptent certains coups du sort que l'on doit en faire autant, sous prétexte que l'on doit continuer à vivre quoi qu'il arrive pour que la vie continue. On doit vivre n'importe comment, n'importe quoi. À force d'accepter ce que la vie nous apporte, on ne vit plus sa propre vie, mais celle des autres. Il faut se faire une certaine grandeur de sa vie, se faire une ligne de conduite, accepter certaines choses de la vie et en refuser d'autres. Ce n'est pas noble de se faire semblant plaisir, d'avoir l'illusion de s'enivrer de petits plaisirs, de faux plaisirs, pour oublier ses peines présentes. Vous serez plus grand en restant avec vos peines. Si la peine est trop forte, au lieu de vivre bêtement, il vaut mieux se suicider. Il est plus noble de se donner la mort que de vivre bêtement, médiocrement, en acceptant toute la vie. Non à un certain coup du sort, non à la vie à tout prix, voilà la vie avec un certain idéal, une certaine absolue. Vivre pour la vie, quoi qu'il arrive, c'est une idée de la société pour qu'elle puisse continuer, quoi qu'il arrive. C'est aussi pour nous faire accepter ce qui est inacceptable, les misères qui ne sont pas faites par la nature, mais par les hommes. Stéphane soupire. Ceci n'est pas le sujet.
Oui, mais avant d'arriver au sujet proprement dit, il faut que l'homme puisse vraiment voir et comprendre ce qui est et l'entoure. L'on aboutit à l'absolu par l'esprit, et l'esprit doit se purifier. Pour cela, il faut le nettoyer de tout ce qui l'empêche de voir et de comprendre, c'est-à-dire tout ce qui est. Tout ce qui l'anesthésie et l'empêche de travailler vraiment. Pour cela, l'homme doit se purifier et faire abstraction de tout ce qu'il enivre. Les ivresses que la société a données pour que l'homme ne voie pas le monde tel qu'il est.
Vous avez sans doute raison. Vous allez mettre combien de temps pour écrire cette œuvre ?
Je ne sais pas. Cela ne dépend pas de moi. Les idées peuvent venir rapidement ou je dois attendre des jours pour qu'elles viennent.
Le téléphone sonne. Stéphane sort de la chambre pour pouvoir répondre. téléphone se trouve sur une commode dans le couloir. Allô? Oui? Non. Puisque je vous dis qu'il n'a plus besoin de vous. Je suis le nouvel infirmier. Oui? Non. C'est un nouveau médecin qui m'a embauché. Oui. Au revoir, monsieur. Et il retourne dans la chambre.
Qui était-ce ?
Rien, un faux numéro. Écrivez. Il est 22 heures. Charles est à sa table, il écrit, puis compte ses feuilles.
C'est fini pour aujourd'hui.
Stéphane compte les feuilles. Stéphane compte les feuilles. Il en manque une.
Je suis fatigué.
Je vais vous donner des fortifiants. Il sort de la chambre. Il revient, un verre à la main. Tend le verre à Charles. Tenez, buvez cela.
Ça me donne des palpitations. Ça m'excite et m'empêche de dormir.
Buvez. Charles boit. C'est bien. Vous n'irez pas vous coucher tant que vous n'aurez pas écrit vos 10 pages.
C'est difficile.
Vous me remercierez plus tard. Vous savez que je fais cela pour vous. Stéphane lit ce qu'a écrit Charles. La petite flamme. Chaque être a dans son corps une petite flamme. Cette petite flamme sert à mesurer notre puissance vitale. Cette puissance vitale est nourrie par le moral qui provient de l'âme. Le moral de l'âme, c'est le plaisir. Le plaisir qui provient de notre monde intérieur et extérieur. C'est la satisfaction que l'âme a eue de ce monde intérieur et extérieur. Plus le plaisir est fort, plus le moral est grand. Plus le moral est grand, plus il nourrit la puissance vitale. Plus la puissance vitale est forte, plus la petite flamme est grande. Que Stéphane ait lu, il hausse ses épaules. Nous sommes encore loin du sujet. Qui est-ce qui nous amènera vers l'immortalité?
Il faut d'abord comprendre le mécanisme de l'âme, parce que c'est l'âme qui nous amènera à l'immortalité.
Vous en avez encore pour longtemps?
Je ne sais, le cheminement est peut-être long.
Je vois. Le lendemain matin, Stéphane entre dans la chambre de Charles. lui dit « J'ai décidé de loger chez vous. Cela me permettra de mieux vous observer. » Stéphane installe ses affaires dans la chambre à côté de celle de Charles. Désormais, la journée commence à 7 heures. Stéphane se lève, fait son lit, sa toilette, va dans la chambre de Charles, bonjour, il est l'heure.
Déjà ?
Une piqûre. Lui sert un verre d'eau. Donnez-moi ces comprimés. Le mettre dans la salle de bain. Pour sa toilette. Il le ramène dans sa chambre, l'asseoir devant sa table. Allez, écrivez. Je vais vous préparer le repas. Et reviendrai vous voir quand j'aurai fini. Après avoir préparé le repas, il retourne vers Charles. Compte les feuilles qu'il a écrites. Feuilles, il en manque 4 avant de manger.
Mais vous m'aviez dit 10 par jour.
Non, ce n'est pas suffisant. Le temps presse, vous n'avez plus 20 ans. Pour le déjeuner fini, encore 10 pages. La journée, Stéphane reste dans la chambre, assis sur un fauteuil à surveiller Charles. Ne vous endormez pas, il n'est pas encore l'heure de s'endormir. Vers les 19h, il demande. Les 20 pages sont-elles écrites ? Il s'approche de la table. Prend les feuilles et les compte. Encore une page, ensuite vous irez au lit. Avant de le coucher, une piqûre et des comprimés. Les journées passent ainsi. Stéphane fait les 100 pas dans la chambre. Charles est assis devant sa table.
Vous ne mangerez pas, ni ne vous coucherez tant que vous n'aurez pas fini vos 20 pages. Je suis fatigué, malade, je n'en peux plus. Cela fait des jours que j'écris. J'ai besoin de repos. J'ai la tête qui tourne. Je ne sais plus ce que j'écris. Ayez pitié de moi.
C'est pour votre bien que je fais cela. Pour que vous puissiez finir votre œuvre maîtresse. Vous comprenez ? Il s'approche de lui. Et lui dit, en lui caressant le dos, « Finissez ces 20 pages. Finissez ces 20 pages. » Stéphane prend les feuilles et lit. Il y a des moments où mon esprit a besoin de petites joies, d'une vie simple, calme, sans histoire ni grandes idées. J'ai envie de m'enfoncer dans la foule et de me laisser guider par elle. Mon esprit est fatigué. J'ai besoin de laisser mes hautes idées au vestiaire. Toutes ces idées qui, au lieu de me mener vers un asile de calme, me mettent dans un monde brûlant d'insécurité et de dégoût. J'ai besoin d'une vie tranquille et sans histoire. Et malheureusement, il m'est impossible de me fondre dans la foule. Mon œil est un œil qui a appris à voir. Il ne lâche pas mon esprit. Il le tient en éveil par des images sans voile, sans artifice. Mon esprit a beau chercher à se détendre, à se reposer, il ne le peut. Tout ce qu'il voit, entend, le dégoûte et le laisse en éveil. Que faut-il faire pour que mon esprit puisse se reposer? Où faut-il aller, s'enivrer? Dans le travail? L'amour? Oui, mais pour s'enivrer, il faut que mon esprit fasse des efforts surhumains pour se fixer sur une chose qui est... Et il est tellement fatigué déjà. Que faut-il faire pour que mon esprit puisse se reposer? Où faut-il aller? J'ai beau chercher des artifices par l'art, la littérature, la peinture, mais rien n'y fait. L'œil veille et sait déceler le vrai. Dormir, bien sûr, mais l'on ne choisit pas ses rêves et ils peuvent être des cauchemars. Que faut-il faire pour que mon esprit puisse se reposer? Où faut-il aller? Pourtant, mon esprit, il faut que tu te reposes. Tu es assez fatigué, tu ne supportes plus ce monde, tout ce qui t'entoure. Pour que tu puisses te reposer, il faudrait que tu deviennes aveugle, sourd. Mais les images de ce monde sont si criardes et les bruits de la terre sont si forts et bruyants que même sourd et aveugle, tu recevras encore les échos de ce monde. Alors que faut-il faire pour que mon esprit, mon corps, mon âme puissent sortir de ce monde, puissent se reposer? Sortir du monde? En mourant? Oui, mais si mon esprit, mon âme, après ma mort, reste immortel, que faut-il faire pour que mon esprit puisse se reposer? Où faut-il aller? Où? Où? Stéphane, après avoir lu, dit « Il faut que vous finissiez votre œuvre pour accéder à l'immortalité et planer au-dessus de tout. » Il est 2 heures. Charles est dans son lit.
Il faut que je termine cette œuvre. Je dois trouver la formule qui donnera l'immortalité à un homme. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mon Dieu. Mon Dieu. Aidez-moi. Aidez-moi.
On a sonné à la porte d'entrée. Charles va ouvrir.
«
C'est un homme de taille moyenne, les cheveux gris, habillé d'un costume beige et il porte une serviette noire. Je suis le docteur Poirier. Je désirerais voir M. Charles Messager. Il ne veut pas vous recevoir. Je vous l'ai déjà dit, M. Messager a pris un autre médecin. Et vous, qui êtes-vous? L'infirmier qui a été choisi par son nouveau médecin pour s'occuper de M. Messager. Qui est le nouveau médecin? Vous n'avez pas à le savoir. Dites-moi au moins, comment est M. Messager? Mieux, merci. Au revoir, monsieur. Et il ferme la porte. Puis entre dans la chambre de Charles.
Qui était-ce?
Une personne qui s'était trompée. Avez-vous trouvé?
Je cherche. Je ne sais plus.
Dépêchez-vous, le temps presse. Montrez-moi ce que vous avez écrit. Charles lui donne les feuilles. Il y a deux types d'hommes, ceux qui recherchent l'absolu et ceux qui recherchent le plaisir. Pour ceux qui recherchent le plaisir, la fille ne comporte que d'expériences et un côté primitif. Ils sont personnels. Pour ceux qui recherchent l'absolu, la vie doit avoir une certaine grandeur, perfection. Pour eux, elle doit être plus élevée que celle des autres grâce à l'intelligence, la sensibilité. Ils sont universels. L'absolu est une chose parfaite, entière, que rien n'a et ne peut souiller. Elle est la pureté même. Elle représente la grandeur, la perfection et l'immortalité qui est la perfection même. Rechercher l'absolu dans la vie, c'est avoir pour but, pour idéal, la recherche de la perfection, c'est lutter contre la médiocrité. L'homme a la conscience de se savoir imparfait, mais il est poussé vers la perfection. Cette poussée vers la perfection est un mouvement d'autodéfense contre les imperfections du monde et de la vie. Le monde où se trouve l'homme est instable, fragile. Plus l'homme évolue en intelligence, plus il souffre de cette imperfection, plus il a besoin de perfection, car il a besoin pour se réconforter de savoir que la perfection existe, ce qui lui permet de se pousser en avant et d'améliorer les choses qui l'entourent. La civilisation se développe grâce à la recherche de l'absolu. Alors il se met à la recherche de l'absolu. Cette recherche devient son idéal. Elle permet de se sortir de la médiocrité. Elle démontre que l'on veut une certaine grandeur à notre vie. Et l'homme voudrait créer quelque chose qui représente la perfection. L'absolu doit être représenté par quelque chose de beau et de pur. Pourquoi beau? C'est parce que l'on doit être ébloui par l'absolu et aussi c'est que la beauté représente la perfection esthétique. Pourquoi l'absolu doit être représenté par un objet pur? Parce qu'il doit être représenté par quelque chose de fort et d'inviolable, que rien ne doit tacher, souiller. Il doit être fait par une matière unique. Il doit être pur aussi, car il doit représenter la fragilité, l'innocence, chose que l'homme a perdue et regrette. L'absolu peut se chercher dans la nature, les plantes, les paysages, etc. Mais cela ne suffit pas aux hommes, car l'homme recherche quelque chose qui doit être le centre de tout. L'absolu peut être représenté par un objet, une personne, Dieu, des idées. On peut rechercher l'absolu dans un travail, n'importe lequel, en le faisant d'une façon la plus parfaite, la plus complète. La recherche de l'absolu par un objet, un travail ou des idées est poussée par un besoin de s'exprimer, de se personnaliser. Rechercher l'absolu c'est avoir pour idéal aussi de mieux faire que les autres, de se surpasser et de dépasser les autres, c'est sortir de là ou de sa médiocrité par la perfection. L'absolu peut être représenté par une personne, mais si l'homme sait et se sait imparfait, il cherche malgré tout chez ses semblables la perfection. Et pourtant, il sait que cette perfection est éphémère. Mais là, il est poussé par l'affection. Cette recherche, la plupart du temps, aboutit à un échec, car l'affection est aveugle. Pour certains, l'absolu est représenté par Dieu. Il ne peut et ne doit être représenté que par Dieu. La recherche doit aboutir à Dieu, car pour eux, Dieu, c'est l'amour parfait. Dieu est tout puisque Dieu est tout. En dehors de Dieu, il n'y a rien. Donc l'absolu se trouve dans Dieu. Il ne peut se trouver en dehors de Dieu puisqu'en dehors de Dieu, il n'y a rien. Puisque l'absolu se trouve dans Dieu, Dieu, c'est l'absolu. Et puisque l'homme, pour aboutir à l'absolu, doit être comme Dieu, il doit accéder à la perfection, c'est-à-dire à l'absolu, c'est-à-dire à l'immortalité. Rechercher l'absolu en Dieu, c'est créer l'absolu universel. C'est aussi démontrer que l'homme n'aboutira jamais à la perfection, puisque l'absolu, c'est Dieu. Tout ce qui est, c'est Dieu. Et comme ce qu'il a créé n'est pas parfait aux yeux des hommes, l'homme ne peut faire mieux que Dieu. Pour certaines personnes, la recherche de l'absolu peut se faire aussi par l'art, puisqu'il ne peut se trouver dans le monde qui nous entoure et qu'on ne peut le transformer, alors l'on recherche l'absolu dans l'art en recréant le monde. Cette création se fait librement, sans contrainte naturelle ou morale, ce qui permet aux yeux de l'artiste de créer quelque chose qui soit pour lui parfaite, quelque chose d'absolu. La recherche de l'absolu par l'art, c'est rechercher avec l'aide de l'irréel. Quoi que l'homme sache que la recherche de l'absolu n'aboutit pas à l'absolu, mais à un état d'âme, d'esprit, à la pureté, à la grandeur de l'esprit et de l'âme, car en voulant rechercher la perfection, l'homme se rehausse et s'anoblit. Ce qui permet à l'homme de se rapprocher de Dieu. Vouloir l'absolu, c'est vouloir se rehausser et rehausser le monde. Fan a fini de lire. C'est la conclusion.
Peut-être.
C'est pas ce que nous avions dit.
Je suis fatigué.
Stéphane jette les feuilles sur la table. Il se penche vers Charles. Vous devez y arriver. Il le faut! Stéphane s'approche du lit, furieux. Levez-vous, il est 8 heures.
Je ne peux pas, je suis fatigué. Laissez-moi.
Stéphane se penche vers le visage de Charles. Il fait peur à Charles. Il faut finir cette œuvre. Vous devez trouver la solution. Vous le devez.
Je ne peux pas.
Si vous le devez, vous l'avez presque trouvé. Il le faut pour l'humanité.
Je ne peux pas. C'est impossible. C'est au-dessus de mes forces.
Si vous le pouvez.
C'est au-dessus de mes forces. C'est malgré moi.
Dieu ne le veut peut-être pas. Et pourquoi Dieu ne le voudrait-il pas?
Trouver l'absolue immortalité, c'est peut-être violer Dieu.
Vous dites des absurdités. Remettez-vous au travail.
Mais qui êtes-vous pour me tourmenter? Qui êtes-vous?
Je suis tous ceux qui ont besoin de votre recherche.
Moi, un vieillard, le poids de l'humanité sur mes épaules.
Oui, mais quelle grandeur! Au travail!
Mon Dieu, aidez-moi!
Demandez l'aide au diable. Il peut vous aider, le diable fera. Il doit connaître la solution, lui aussi.
Si je suis libéré de ce fardeau, je veux bien.
Charles est au lit. Stéphane, assis sur le fauteuil en face du lit, lit les dernières feuilles du livre, qui est fini. Toutes les feuilles sont à ses pieds, sauf une qu'il lit. Plus l'homme évolue, plus sa vie intérieure est grande et les rapports avec l'extérieur et le monde qui l'entoure s'amenuisent. S'il continue dans ce sens, il vivra qu'en esprit et dans et au-delà du monde comme Dieu. Qui dit esprit dit âme, et comme l'âme est immortelle, l'homme aboutira à l'immortalité par la vie intérieure. Plus sa vie intérieure sera intense, plus sa vie deviendra esprit, donc immortel comme Dieu. Stéphane a fini de lire. Tout à coup, un vent envahit la pièce. Et Charles sont surpris. Une voix retentit. Personne ne doit savoir ceci. Et tout à coup, les flammes brillent, les feuilles. Les flammes brûlent les feuilles, même celles que Stéphane, terrifié, tient à la main. Du lit sort un grand cri. Puis, le soir tombe. Stéphane est dans le bureau du directeur des éditions Renfort. Devant, à son bureau, son directeur, un homme gros, gras, cheveux coupés ras, brun, costume noir. Alors, après une semaine d'hôpital, vous allez mieux?
Oui, monsieur.
Bien. Je ne crois pas du tout à l'histoire que vous m'avez racontée à l'hôpital. De douche ou de lune? Vous avez gardé le manuscrit pour vous,
ou il ne l'a pas écrit. Je vous assure, monsieur le directeur, que c'est la vérité.
Le temps des miracles est aboli, mon ami. Nous vivons dans le monde des lumières et de la science.
Je vous ai payé pour que vous persuadiez Charles Messager d'écrire son œuvre majeure et pas pour que vous me racontiez des balivernes. Disons qu'il n'a pas écrit et que vous n'avez pas pu le persuader. Mais je vous ai à l'œil, et si par hasard vous vouliez me filouter et donner l'œuvre à un concurrent, bon, pour en finir, un chèque de 50 000 devrait vous satisfaire.
Thank you.
Radio Canet vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, L'œuvre, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, en